Soigneux. Toute cette semaine, Raphaël Rérol rencontre Catherine Millet. Ce soir, le couple, l'amour.
Bonsoir Catherine Millet.
Bonsoir.
Voilà, c'est le troisième soir où nous sommes chez vous, à Paris. Vous nous avez parlé de beaucoup de choses jusqu'ici et vous avez fait allusion à quelqu'un, Jacques Henrique, vous l'avez nommé par son nom, qui est votre compagnon depuis très très longtemps et votre mari depuis un certain temps aussi.
Oui, on compte pas.
Voilà. Cet homme-là, c'est dans la vie sexuelle de Catherine M, le seul que vous nommiez dans mon souvenir, hein, par son nom. Et c'est aussi à son propos que vous avez, enfin à son propos, en tout cas c'était relatif à lui, que vous avez écrit un livre très fort qui s'appelle Jour de souffrance. Voilà, Jour de souffrance, c'était une attaque de jalousie.
Hein? C'est ça? Ah oui, 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 une attaque, oui. Soudaine et très violente et qui a duré exactement 3 ans. Je crois. Et si, là j'en ai le souvenir précis, c'est que ça a été un tel épisode dans ma vie qu'il a eu un début et une fin, quoi, en fait. C'est comme si, alors là pour le coup, j'étais encore devenue une autre pendant ces 3 ans-là. Là pour le coup, j'ai parlé l'autre jour de dédoublement. Pour le coup, là j'étais vraiment dédoublée, c'est-à-dire que j'étais... pendant cette crise de jalousie, devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas, en fait. Voilà. Et la souffrance, qui est annoncée par le titre, c'est pas tellement... C'est certes, la souffrance de la jalousie elle-même, mais c'est aussi la souffrance de se voir jalouse, en fait. Et moi qui, justement, l'autre jour avec vous, vantais la liberté sexuelle, eh bien, cette fille tellement libre sexuellement et se trouvait, le nez sur un mur qui s'appelait la jalousie.
Bon. Il était inscrit dans vos relations avec Jacques Henrique, Catherine Millet, que vous étiez libre.
Chacun. Il n'était rien inscrit du tout, on n'en avait jamais parlé, ou très, très rapidement. On s'est longtemps fréquenté, si je puis dire, pour parler comme on parlait au siècle, au 19e siècle ou au début du 20e. On s'est beaucoup fréquenté sans vivre ensemble, en fait. Moi, je vivais avec un autre homme. Jacques et j'avais la vie racontée dans la vie sexuelle par ailleurs. Jacques lui était célibataire, mais évidemment avait une vie de célibataire, c'est-à-dire qu'il avait sans doute beaucoup un certain nombre d'amis, de maîtresses, et donc on a vécu comme ça, on s'est fréquenté pendant plusieurs années. Donc de fait, on se doutait bien qu'on n'était pas l'unique que l'autre rencontrait pour satisfaire ses désirs sexuels. Bon. Et puis, il s'est trouvé, voilà, l'évolution de nos vies ont fait qu'un jour, on a décidé de vivre ensemble. Et on n'a pas tellement reparlé de ça à ce moment-là, quoi. On supposait que. Il y avait bien des signes qui nous signalaient qu'on n'était pas l'un comme l'autre d'une fidélité sexuelle absolue. Mais bon, ça marchait bien comme ça. Et moi, je pense que ça ne peut marcher que comme ça, d'ailleurs, en fait. Que justement cette idée de la transparence qui était une des idées de l'époque de la libération sexuelle, c'était du pipeau, quoi, en fait. C'est pas
Pourquoi?
Tenable. Bon, parce que je pense que la transparence, c'est-à-dire que on raconte à l'autre, ou en tout cas on le tient au courant, on lui dit tiens, demain je sors avec un tel. Bah, en fait, c'est assez pervers, en fait. Ça met l'autre dans la situation de faire marcher son imagination et de vous imaginer, en effet, avec cet autre, et qu'est-ce qu'ils font, est-ce que c'est mieux avec lui qu'avec moi, etc., etc. Bon, donc, il vaut mieux éviter, il vaut mieux, comme ça, un statu quo.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, Catherine Millet, la jalousie...
Et puis moi, à un moment donné, il y a eu un... Alors moi, en fait, il y a eu un jour un élément qui m'a fait apparaître, voilà, cette autre vie de Jacques-Henric. C'était des photos qui traînaient, des photos d'une jeune femme nue. Et puis cette jeune femme, je la connaissais. Je supposais d'ailleurs que c'était une maîtresse de Jacques-Henric. Mais voilà, ça me traversait l'esprit. Ça ne s'accrochait pas dans ma conscience. Et là, les photos ont accroché. La jalousie en moi, voilà. C'est alors, est-ce que ça tient au fait que pour moi l'élément visuel, la perception visuelle est tellement importante que tout d'un coup d'avoir ces photos sous les yeux, ça a cristallisé non pas l'amour là, mais la jalousie. Et en tout cas, ça a alimenté la jalousie. Je pense que c'est une paranoïa et que cette paranoïa, elle est alimentée par des fantasmes, et les fantasmes, ce sont des images. Donc certes, Jacques-Henric fréquentait un certain nombre de femmes. Bon, j'en ai découvert la trace au fur et à mesure, parce que je me suis transformée en une véritable espionne, en fait. Et ça, bon, j'en parle là comme ça avec le sourire, mais sur le moment, c'était assez dur. Et à partir de ces traces, alors là, pour le coup, mon imagination a bâti plein d'aventures, si je puis dire, plein de récits, voilà, qui venaient alimenter cette jalousie. Je m'en suis nourrie pendant 3 ans. C'était une obsession, mais quotidienne, enfin pas quotidienne, c'est rien de le dire, c'était permanent. J'ai eu vraiment l'impression d'avoir mon cerveau complètement occupé, squatté à l'époque par ces récits.
Ça a une sorte de parenté, Catherine Millet, avec une maladie, c'est-à-dire qu'un jour ça arrive,
oui,
et un jour ça repart, on est guéri.
Oui, un peu, c'est un peu ça.
Tel
c'est
que presque vous le
racontez. C'est pas complètement du jour au lendemain, mais presque. En fait, alors, il faut savoir que quand même j'ai fait des efforts pour m'en sortir, qui sont décrits dans le livre. D'abord parce que j'en parlais beaucoup avec Jacques-Henric, on avait beaucoup de discussions, on a passé des nuits et des nuits à pas dormir pour parler de ça. Ce qui était quand même pas mal, parce que peut-être que d'autres couples auraient pas installé entre eux la même confiance pour se parler aussi ouvertement l'un et l'autre de tout ça. Bon, donc il y a eu ces discussions. Moi, je suis retournée en analyse parce que j'avais entrepris une analyse des années auparavant. J'y étais restée pendant quelques années, puis j'avais arrêté. Et là, je suis retournée d'ailleurs chez le même analyste pour là aussi essayer de m'en sortir. Je me suis vraiment débattue avec ça. Et puis, bon, je crois que je pense que l'analyse, ça peut aider. L'analyse, elle peut aider, enfin la psychanalyse peut aider dans la mesure où elle fait bouger les choses par définition dans l'inconscient. Donc vous en rendez pas compte. Et c'est pour ça qu'un jour vous vous réveillez et tout d'un coup, votre problème, il est réglé. Pas à 100%, mais à 95%. Bon, c'est ça l'analyse. C'est pas, voyez, un récit de soi qu'on écrit de séance en séance, et puis on progresse comme dans un roman policier. Et puis un jour, on a la solution de l'énigme. Non, c'est, je veux dire, la progression, le travail de l'inconscient qui progresse, on s'en rend pas compte par définition. Puisque c'est dans l'inconscient, et c'est pour ça que un jour il y a presque de la stupeur à découvrir que cette souffrance qui nous a torturés pendant des années, eh ben a disparu. Et pour ce qui me concerne, s'agissant de cette jalousie là, alimentée par des images, c'est un jour j'ai compris que en fait c'était une source de jouissance formidable. de jouissance masochiste, morale, jouissance morale masochiste, mais que c'était une source de jouissance. Et après, j'étais capable de dire, comme je vous le dis en ce moment, avec un grand sourire, c'est que le jour où j'ai compris que ça me faisait jouir, je n'ai plus joui de, de ces fantasmes avec lesquels je me torturais, quoi. Donc c'était assez, assez rapide, finalement. Après 3 ans pendant lesquels j'en avais bavé.
Vous avez consacré, Catherine Millet, un livre à D.H. Lawrence, hein, l'écrivain, et dans lequel vous dites que vous partagez avec lui le sentiment que votre personne est, je cite, « résolument indépendante des circonstances ». J'explique dans de quoi il s'agit. C'est-à-dire que lui, à un moment, dit à sa femme, ils sont sur un navire, il y a de la tempête, et il lui dit, pour la calmer, il lui dit « un bateau sur lequel je suis ne peut pas couler. » Et vous racontez, vous, que vous êtes un jour dans un hôtel où il y a une alarme incendie très insistante et que vous restez dans votre lit. Et avec l'idée que, voilà, ça ne peut pas être dans cet hôtel-là, puisque vous y êtes. Et je rapporte ça à la question de la jalousie, parce que est-ce que, dans la répugnance que vous avez à en parler aujourd'hui, je dis ça parce que quand je vous ai dit que j'aimerais bien que vous nous parliez de ça, vous avez eu un petit mouvement de recul. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée que vous n'étiez pas indépendante des circonstances et de vous-même ?
Ah oui, complètement, bien sûr.
Une sorte d'humiliation
Oui, bien sûr, on perd sa liberté, en fait, en quelque sorte, sa liberté La citation que vous faites de Laurence et puis la manière dont moi je le reprends dans mon livre, c'est ça, c'est-à-dire que dans ces effets de dédoublement dont on a déjà parlé, comme ça, il y a comme effet que la personne que j'ai été couchée dans un lit d'hôtel où il y avait une alerte au feu était distinct de celle qui était venue là, ça se passait en Australie d'ailleurs, c'était un hôtel à Sydney, qui était venue là en Australie avec un certain nombre de tâches à accomplir sur place, et je dirais une certaine conscience de son destin, allons-y carrément, vous voyez, bon, mon destin n'allait pas s'arrêter là dans cette chambre d'hôtel, j'en étais absolument persuadée, j'avais beaucoup trop d'autres choses à faire que de m'attarder à une alerte d'incendie aussi impérative soit-elle. Bon, donc là,
qui au demeurant était une fausse alerte.
Et qui était une fausse alerte, parce que peut-être que je ne serais plus là. Mais vous voyez, j'avais confiance d'avoir confiance dans mon destin. Bon, de même que Laurence n'est pas mort noyée. Là, il y a une complète dissociation, finalement, entre votre personne physique est telle que les autres peuvent la regarder, parce que à un moment donné je me suis quand même décidée à sortir dans le couloir et tout le monde m'a regardée parce que moi j'étais en petite tenue et que les autres étaient habillés prêts à s'enfuir de l'hôtel en flammes. Bon, et donc en fait cette jalousie elle m'a fait me coller comme ça aux objets, aux indices, au comportement de Jacques Henric, à ses paroles. C'est-à-dire, j'étais vraiment, c'était comme de la glu qui m'attachait à chacune de ces données, comme ça, dans lesquelles je m'empêtrais. C'était comme, se débattre dans un pot de colle, quoi. Là, l'indépendance, il est plus question de la ressentir, en fait. Oui,
Je reviens, Catherine Millet, à ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet du petit mouvement de recul. Donc, c'est une période désagréable pour vous et pénible de s'en souvenir. Ça a été pénible de l'écrire ?
Ah oui, très. Oui. Enfin, pas tout, mais certains passages, oui. Par exemple, il y a un passage où je fais la citation, des citations qui sont assez brèves d'ailleurs, d'une correspondance que nous avons eue, Jacques et moi, à cette époque-là, parce que tout en vivant ensemble, des fois on était séparés par un voyage, par un séjour ailleurs, etc. Bon. Et donc on en profitait là pour s'écrire. Et bon, à un moment donné, j'avais pris la décision de faire des citations de ces correspondances. Or, en fait, les lettres de Jacques, je les avais pas lu complètement, tellement elles m'avaient terrorisée dans le moment où je les avais reçues. Alors je les avais survolées, l'œil complètement affolé comme ça, et puis je les avais refermées, mis dans un tiroir, et je les ai sûrement pas oubliées évidemment. Mais c'était tellement douloureux que voilà, je voulais les garder quand même à distance. Alors là, il fallait supprimer cette distance pour choisir des citations qui seraient pertinentes dans le récit. Bon, j'ai tourné autour pendant des jours
sans pouvoir ouvrir le tiroir.
Ah mais oui, c'était vraiment affreux quoi. Bon, alors j'ai choisi un moment où ça allait un peu mieux. Bon, ouais, j'y suis allée, j'ai pris sur moi, j'ai lu. Mais par exemple, je sais pas où elles sont, j'ai dû les ranger quelque part, mais je suis pas sûre que je les ressortirai. Oui, bon, c'est là, peut-être que ça reste encore trop traumatisant. J'en sais rien d'ailleurs. Tiens, il faudrait faire l'expérience.
Vous avez découvert des choses en ouvrant ces lettres que vous aviez à peine lues ?
Peut-être pas quand même, peut-être pas. En fait, l'œil enregistre quand même, mais c'est la conscience qui refoule. Mais donc qui refuse de s'y attarder. Mais l'œil avait balayé quand même, ouais. Avec une espèce d'avidité d'ailleurs, avait affolé quoi, comme je disais.
Et si vous nous avez parlé l'autre soir, Catherine Millet, de la question du témoignage, que c'était quelque chose qui était très important pour vous, en écrivant ce livre-là aussi, vous vouliez témoigner.
Ça s'est révélé être un témoignage là aussi, parce que évidemment d'une manière différente des réactions à la vie sexuelle, mais là j'ai aussi enregistré des réactions de lecteurs qui avaient retrouvé voilà des choses qu'ils avaient vécues ou qui les avaient fait souffrir ou dans lesquelles ils avaient été embarrassés et tout ça. Bon, donc ça a pu avoir cette valeur là moi, quand je l'ai entrepris, j'étais moins motivée par ce désir de témoignage que par un surmoi qui me disait que j'avais écrit La vie sexuelle de Catherine M, que tout le monde trouvait que c'était un livre formidable, que en même temps on se posait la question de savoir qui était cette femme qui finalement disait beaucoup de choses de sa vie sexuelle mais rien d'autre en fait. Bon, et je savais bien aussi alors là que dans la chronologie des faits, cette crise de jalousie terrible avait précédé l'écriture de La vie sexuelle. Donc il y avait un rapport quand même de l'un à l'autre, pour être honnête. Et donc c'est un souci d'honnêteté. Je me suis dit, voilà, j'ai livré ce livre, La vie sexuelle. Les gens le reçoivent comme quelque chose d'important, pour qu'ils sachent en effet tout. De cette aventure, il faut leur dire aussi que la femme qui l'a écrit est une femme qui a connu une jalousie assez terrible. Voilà. C'était mon surmoi qui me faisait dire ça. Succès de la vie sexuelle était quand même assez inattendu. J'ai toujours considéré que c'était un cadeau de la vie, comme ça. Tous ces gens qui ont fait le succès de ce livre, je leur devais au moins la vérité sur la personne qui l'avait signée. Voilà.
C'est étrange cette notion d'honnêteté qui est belle, ah bah, et en même temps qui est très étrange, parce que au fond on a parlé de la question du personnage tout à l'heure, etc. Vous auriez pu aussi considérer que Catherine M était un personnage.
Oui, ce que je considère que vous ne deviez rien en partie d'ailleurs, oui,
au
oui,
lecteur,
oui.
Et que vous ne deviez rien après au lecteur.
Oui, oui, oui. Non, mais ça c'est mon fond
c'est
cateau.
Côté bonne sœur.
Oui, c'est mon côté cateau. Oui, oui, oui. Ben, ouais, ouais. C'est sûr, mais bon, comme je crois comme beaucoup de gens qui quand même ont mis le travail au centre de leur vie, je pense. Il y a des gens qui mettent leur famille, il y a des gens qui mettent l'amour. Moi, je dois dire qu'au centre de ma vie, il y a le travail. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'amour. Bon, certes, j'ai pas fondé de famille. Mais je pense que le centre de ma vie, c'est vraiment le travail. Donc, le travail a des exigences d'honnêteté, je crois, quelles qu'ils soient, en fait. Je ne sais pas, vous êtes employé dans une société, vous avez intérêt à être honnête, parce que sinon ça se voit et vous serez renvoyé. Vous dirigez cette entreprise, là aussi vous avez intérêt à être honnête avec vos fournisseurs, avec vos créanciers, avec vos employés, si vous voulez que l'entreprise perdure. Je pense que le travail exige l'honnêteté, quoi.
Vous avez parlé d'amour. Vous avez dit qu'il y a des gens qui mettent l'amour au centre de leur vie. L'amour a tenu quelle place dans la vôtre ?
Bah, en fait, il s'est beaucoup confondu avec le travail. Bon, j'ai vécu 10 ans, moi débutante critique d'art, avec un homme, Daniel Templon, qui lui était un débutant marchand de tableaux. Enfin, on disait pas encore galeriste à l'époque. Maintenant, il est galeriste. Bon, et puis je l'ai quitté pour vivre avec Jacques-Henri, qui est écrivain, qui collaborait déjà depuis longtemps à Art Presse. Bon, pour moi, j'ai toujours eu une vie amoureuse. Et puis j'ai eu d'autres amitiés, d'amitiés, amour, sexuel, comme ça. Et c'était presque toujours avec des gens avec qui je travaillais. Alors là, moi, je suis pas du genre à dire, vous savez, je mélange pas ma vie sexuelle ou amoureuse et puis le travail. Non, moi, j'ai fait que ça. Que ça. Et je dois dire, je n'ai qu'à m'en féliciter. Parce que, en fait, avec Daniel Templon, je trouve qu'on a accompli des choses. Sa galerie est aujourd'hui une galerie importante. Nous avions créé Art Presse ensemble. On va fêter là les 45 ans de la revue, donc c'est quand même une bonne réussite.
Jacques-Henri travaille à Art Presse.
Jacques-Henri travaille. On a une vie avec Jacques, intellectuelle, je trouve d'autant plus intense. Et le travail est d'autant plus fructueux qu'on le fait à deux, quoi, qu'on en parle tout le temps, que on n'est pas toujours d'accord. J'ai le souvenir d'une époque où on a publié à peu près en même temps des livres qui défendaient des thèses diamétralement opposées sur l'art, et ça nous amusait beaucoup, ça étonnait les gens autour de nous, les amis, en disant mais de quoi vous parlez le soir? Ben justement, on parle de ça. Mais c'était assez intéressant, en fait, de pouvoir se confronter comme ça.
Et alors, c'est encore en lien avec votre travail, mais dans le livre que vous avez consacré à D.H. Lawrence, vous dites que vous êtes tombée amoureuse de lui.
Oui, je pense vraiment. Je le crois profondément. Alors, moi, je fais la différence entre l'amour et puis être amoureux. Parce que finalement, on peut être amoureux comme ça, on est séduit par quelqu'un, on a envie d'avoir une histoire avec lui, mais on sait bien que ça va pas vous engager pour la vie. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui joue comme ça. Oui, il y a de la séduction. Ça, c'est pour moi, c'est être amoureux. Alors oui, j'ai été amoureuse de Lawrence. Je pense que même sa personne physique m'a séduite. Alors il n'avait pas un physique tellement séduisant par ailleurs, mais moi j'aime bien les mauvais coucheurs. Ça, j'ai toujours aimé les hommes qui avaient l'air de résister un petit peu comme ça. Et alors sur ces photos, Lawrence a toujours l'air comme ça. Il a le regard un peu, il est toujours un peu en retrait. Il avait la réputation, d'ailleurs, et en effet, de pas être facile à vivre comme ça. Et ce genre de caractère un peu rude, un peu difficile, moi ça me plaît. Et puis c'est surtout que voilà, j'ai trouvé dans ses romans et dans ses essais tellement d'idées, de vues que je partageais qu'en fait j'ai même aujourd'hui le livre écrit, publié, etc. Il reste quelque chose de cet attachement comme ça que j'ai eu d'emblée pour ce personnage. Et comme je pense que bien souvent quand on tombe amoureux, on tombe amoureux d'images, et que le jour où on n'est plus amoureux, c'est parce que la vérité de la personne s'est révélée derrière l'image. Pourquoi on ne tomberait pas amoureux ou amoureuse ou d'un personnage de fiction ou d'une personne décédée, en fait. Pourquoi pas? Si on n'a pas l'idée de d'engager sa vie dans cet amour-là, en fait. Moi, je pense que ça fonctionne comme ça aussi. Et j'avais envie, je suis sûre que j'ai écrit ce livre pour passer du temps avec lui, en fait. Ouais.
Ce qui vous a intéressé, Catherine Millet, c'est la manière dont il regarde les femmes et dont il en parle.
C'est un homme qui sait. C'est fou ça, parce que c'est un homme qui aura consacré l'essentiel de son œuvre aux femmes, à l'observation des femmes, dans une époque, le début du XXe siècle, où surgit ce mouvement féministe. Enfin bon, ça venait du XIXe déjà, mais vraiment ça a explosé comme ça en ce début du XXe siècle. Et lui, alors à l'exception de beaucoup d'auteurs qui lui sont contemporains, il n'est pas allé se réfugier auprès des femmes enfants, vous voyez. Il y a eu une grande vogue de femmes enfants dans la littérature à cette époque-là. Ça ou alors la vampe. Bon. Mais non, lui s'est intéressé aux femmes qui l'entouraient, qui étaient des femmes souvent des intellectuelles, qui souvent vivaient assez librement, assumaient leur sexualité déjà. Enfin, surtout, il a eu une femme qui était terrible de ce point de vue-là, qui aurait pu écrire l'équivalent de la vie sexuelle de Catherine M. Bon, donc voilà. Et il a analysé très très bien tous les bouleversements que cela engendrait, bien sûr, dans les rapports avec les hommes de ces femmes-là. Émancipée avec les hommes, et puis bien sûr plus largement dans la société. Et beaucoup de ces analyses, certes les circonstances ont changé depuis un siècle, mais beaucoup du fond de ces analyses est toujours valable. C'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire le livre, c'est pour rendre ça sensible.
Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. On va s'arrêter là pour ce soir et on se retrouve demain. Merci. D'accord. Catherine.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Raphaël Rérol avec Catherine Millet. À voix nue, réalisation Franck Lilin. Prise de son Clémence Bonfils, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.